explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ?
Vous croyez que je peux regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
C'est un objet céleste qui intrigue et fascine les hommes depuis la nuit des temps. Aristote y voyait des phénomènes atmosphériques sublunaires. Diodore de Sicile imaginait des poutres enflammées alimentant le soleil. Les astrologues du Moyen-Âge pensaient apercevoir des signes annonciateurs d'une mort illustre. Les comètes, ce sont d'elles qu'il s'agit, après être longtemps restées mystérieuses et inaccessibles, sont aujourd'hui à portée de sonde. Nous avons l'immense chance de vivre à une époque où nous avons la possibilité d'envoyer des explorateurs à la découverte de ces mondes lointains. Dernier explorateur, ou plutôt exploratrice en date, la sonde Rosetta, avec à son bord le petit atterrisseur Philae. Ils nous ont tenus en haleine pendant 2 ans, nous avons suivi leurs aventures avec passion, retenu notre souffle dans les moments critiques. Qui eût cru que des robots puissent à ce point nous faire rêver et allumer notre imagination ?
Mes amis, je ne sais où nous allons.
Sur France Inter.
Je ne sais si nous reverrons jamais le globe terrestre.
Daniel Fievé.
Nous sommes transportés dans l'espace.
Le temps d'un bivouac.
Observe.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. Comme tous les vendredis, en première heure, nous partons pour un nouveau bivouac cosmique avec comme guide aujourd'hui Annie-Chantal Levasseur-Regour et Hervé Cottin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Annie-Chantal Regour, vous êtes astrophysicienne, spécialiste des comètes, professeure émérite à l'université Pierre et Marie Curie, et vous êtes l'auteur de « Les comètes et les astéroïdes » aux éditions du Seuil, un livre antérieur à l'aventure Rosetta. Hervé Cottin, vous êtes professeur de chimie et astronomie à l'université Paris-Est Créteil, chercheur au LISA et membre du groupe Travail Système Solaire du CNES, l'Agence Spatiale Française. Tous les deux, vous avez participé à la mission Rosetta, vous étiez sur des expériences différentes et vous allez nous dire comment vous avez vécu cette formidable aventure et ce qu'elle vous a permis de découvrir. Les auditeurs peuvent vous adresser leurs questions via la page de l'émission sur franceinter.fr ou sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac. En deuxième heure, nous partirons à la découverte de la Chine en compagnie du Québécois Alexandre Trudeau, fils d'un ancien Premier ministre du Canada et frère de l'actuel Premier ministre. Lui a choisi de voyager loin des déplacements officiels. Grand reporter et documentariste, il s'est pris de passion pour la Chine, il nous racontera ce qu'il a saisi de ce pays et de ses habitants. Voilà pour le programme du jour. Cette émission est réalisée par Anne-Sophie Ladonne. Elle a été préparée par Sophie Vaux et Hugo Struna.
Ah, ça... Je pense que là, c'est l'extinction.
Ça y est, ça doit être l'extinction. Donc, je pense que... Est-ce qu'on a un son ? Si on n'a pas le son, je pense que la régie n'a plus peur. Non, il n'y a pas à être enthousiaste, effectivement. Ah, normalement, ça y est. Bien, bah écoutez, on peut applaudir à tous ceux qui ont participé à cet extraordinaire...
Donc, apparemment, le signal a quasiment disparu. La mission est terminée. Il n'y a plus de signal sur les écrans. Les dernières données ont été reçues sur les antennes de Cerebros. Et la séance va pouvoir continuer. Mais l'aventure technique et spatiale, c'est maintenant donc... achevé avec sûrement beaucoup d'émotions, mais aussi le sentiment d'une mission quand même accomplie pour tous les ingénieurs et les techniciens qui sont là. Et par contre, les scientifiques sont forcément très contents, mais l'affaire n'est pas terminée.
Nous étions le 30 septembre 2016, hein, moins d'un an, la fin de la mission Rosetta. Et on le sent, hein, donc c'était à la Cité de l'Espace, à Toulouse, ce direct. Et on le sent dans la voix des présentateurs et des scientifiques qui étaient là. C'est à la fois une joie, parce que tout s'est bien passé, et une immense émotion, Annie-Chantal Levasseur-Regour, parce que c'est vraiment une aventure formidable qui se termine ce 30 septembre 2016.
Oui, le 30 septembre 2016, c'était hier, j'étais à Darmstadt, au centre de contrôle de l'Agence spatiale européenne, et nous nous retrouvions une fois de plus, je devrais dire, parce qu'on a été très souvent au cours de ces dernières années, et je dirais même vingtaine d'années, eh bien, nous nous retrouvions tous, des équipes techniques, des équipes scientifiques, on avait vraiment vécu ensemble pendant des années et des années, ça s'arrêtait, et comme vous le disiez très justement, ça allait continuer pour la science, ça va aussi continuer pour la technique, parce qu'il faut pas se leurrer, les équipes qui ont été impliquées là-dedans ont acquis un savoir-faire extraordinaire pour de nouvelles missions.
Hervé Cottin, c'est une vraie chance pour un scientifique d'avoir pu participer de l'intérieur à une mission comme celle-ci.
Ah oui, j'ai bénéficié d'une chance extraordinaire parce que j'ai hérité en fait d'une certaine manière de tout le travail qui a été accompli par des chercheurs, des ingénieurs qui ont construit les instruments, et moi je suis arrivé pour un peu préparer la récolte et récolter les données scientifiques du fait que j'ai commencé vraiment à faire de la recherche une fois que la mission était quasiment construite et juste avant d'être lancée. Donc c'est un travail qui s'est accompli sur plusieurs générations de chercheurs et qui va continuer encore sans doute sur assez longtemps, parce que il y a des jeunes chercheurs qui démarrent maintenant et qui vont travailler encore sans doute des dizaines d'années sur ces données.
Vous êtes arrivé au bon moment. Mais Annie-Chantal Levasseur-Regour, il y avait déjà eu des missions envoyées auxquelles vous aviez participé. La mission Giotto, notamment.
Absolument.
Était déjà allée vers les comètes. Qu'est-ce que cette nouvelle mission Rosetta avait de plus que les précédentes?
Alors, premièrement, les missions cométaires, effectivement, ont commencé avec les survols de la célèbre comète de Halley, c'était en 1986.
Donc ça, c'est Giotto, c'est la sonde
Giotto. C'était Giotto, il y avait aussi les sondes Vega, et ça se passait en mars 86, et à partir de l'automne 86, nous sommes un certain nombre qui avons commencé à réfléchir sur la suite.
Ouais.
Et avant même de commencer à construire les expériences, avant même de les proposer, d'avoir les idées d'expérience, il y a toute une phase que j'appellerais presque politique entre les différentes agences spatiales pour arriver à quelque chose. Mmh. Et en 1993, si je ne me trompe, il y a eu la décision de l'Agence spatiale européenne de faire quelque chose qui était unique par rapport à tout ce qui s'était passé avant, c'est-à-dire un rendez-vous au lieu d'un survol.
Alors, la différence du rendez-vous avec le survol.
Oui, les termes ne sont pas forcément explicites. Un survol d'une comète, on passe avec une grande vitesse relative près de la comète, et en première approximation, les données que l'on récupère, ça correspond à peu près à 30 minutes d'enregistrement pour divers instruments, alors que la comète est à un endroit donné dans l'espace.
Donc ça, c'est Giotto, 30 minutes de survol.
C'est Giotto, c'est aussi Stardust, c'est des missions américaines. 30 minutes de survol, disons.
De la comète.
Maintenant, quand on arrive à la notion de rendez-vous, je devrais même dire rendez-vous dans le jargon anglais, eh bien, là, c'est toute une autre histoire. On va en fait être sur la même orbite que la comète, à côté de la comète, et on va la suivre pendant plusieurs années.
Ouais.
En l'occurrence, pour Rosetta, c'est 26 mois.
Ouais.
Donc, vous voyez la différence de données qu'on peut avoir entre 30 minutes et 26 mois.
Rosetta a accompagné la comète Churyumov-Gerasimenko pendant 26 mois. Elle l'a contournée, elle l'a survolée, elle l'a mitraillée pendant 26 mois.
Pendant 26 mois, alors que cette comète n'était pas toujours à la même distance du Soleil, on s'est rapproché du Soleil, j'ai envie de dire, on est passé au périhélie, au point le plus proche du Soleil, et puis à nouveau, on s'est éloigné du Soleil. En même temps, la sonde elle-même n'était pas toujours à la même distance du noyau, et ce noyau était vu sous différentes orientations, il a une forme très irrégulière, donc il y avait beaucoup de paramètres qui changeaient, et c'est d'une richesse inouïe.
Ouais. Alors, avant de pouvoir accompagner cette comète pendant plus de 2 ans, il a fallu y aller. Et là encore, hein, c'est le temps des astrophysiciens, ça prend un temps fou de faire ces missions spatiales, parce que la fusée qui décolle avec Rosetta à son bord, elle part le 2 mars 2004. Elle va voyager pendant 10 ans, la sonde Rosetta, avant d'arriver à destination. Pourquoi tout ce temps?
Alors, pourquoi tout ce temps? C'est pas parce qu'on est plus lent que les autres, hein, parce qu'on peut rencontrer des comètes, on peut aller, les missions de survol cométaire peuvent rejoindre des comètes en 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, ce qu'il a fallu faire, c'est, comme le disait Annie Chantal, c'est se mettre sur la même orbite que la comète. C'est-à-dire que on dit parfois Rosetta était en orbite autour de la comète. C'est pas tout à fait juste. En fait, Rosetta a été se mettre sur la même orbite et ensuite, de manière un peu caricaturale et simplifiée, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire qu'on se laisse guider par les lois de la gravité et on suit la comète autour du Soleil. Et ensuite, ce qu'il y avait à faire, c'était naviguer. C'est vrai qu'il y a des choses extraordinaires qui ont été faites par tous les ingénieurs de l'ESA. On a l'impression qu'ils tirent des bords, c'est-à-dire qu'on va sur une trajectoire, on tourne. Ouais. Et alors tout ça, il y a des enjeux techniques, de navigation, il y a des enjeux de protection de la sonde, parce qu'on veut pas que, comme la comète est un objet qui s'active, qui va se mettre à éjecter plein de petites particules ou des gros blocs, on veut pas être trop près quand la comète est trop active. Et aussi, il y a tous les scientifiques qui disent plus près, plus près, plus près, parce qu'on veut plus de données, plus de science, et les ingénieurs veulent protéger l'instrument.
Les scientifiques veulent s'approcher de façon téméraire.
On veut s'approcher, il y a pas forcément, on veut garder notre jouet, enfin notre beau...
vous avez le droit de dire votre jouet.
Sonde. Et donc tout ça, il y a des compromis qui sont parfois pas évidents à obtenir, parce qu'on veut pas tous forcément la même chose. Et donc, il y a tout un management des opérations qui est mis en place.
Et alors, on s'est approché de cette comète. Alors ça, on l'a vécu tous dans le grand public, hein, parce que il y a eu un peu un suspense. Elle s'est approchée, la sonde Rosetta, de la comète Curie de façon progressive. On voyait la comète se dessiner de façon de plus en plus précise, jusqu'à ce que l'on voit parfaitement ce que l'on nous décrive, les paysages incroyables et inattendus.
C'est une montagne de 60 mètres de haut qui domine la comète Curie dans le vide de l'espace. Les photos prises cet été par la sonde Rosetta et publiées ce matin dévoilent un paysage bien plus chaotique que prévu. Des falaises à pic, des vallées, des dunes de poussière parsemées de petits cailloux qui s'étendent sur les 4 km de large de la comète. Pourtant ici, ni vent ni gravité suffisante pour expliquer la formation de ces paysages, mais il y a des indices.
Nous étions le 23 janvier 2015, c'est un reportage dans le 13h de France 2, le journal de 13h. Annie-Chantal Levasseur-Regour, on nous décrit des paysages, des falaises, des gouffres, des dunes. Pourtant, sur cette comète, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de phénomène géologique qui crée. Alors, d'où sortent tous ces paysages?
Alors, ces paysages sortent de processus qui sont différents des processus qui nous amènent sur Terre à parler de falaises ou à parler de dunes. Ah oui. Par exemple.
Donc les termes ne sont pas vraiment justes, c'est ce que vous nous dites.
Ce sont des termes imagés, dirons-nous. Hein. Mais un pur... Alors maintenant, il y a des géologues spécialisés, non pas dans la géologie géos, ça veut dire terre, de la Terre, mais de la géologie des comètes. Eh bien, ils sont en train de découvrir toute une autre géologie. Ouais. Ces choses qui ressemblent à des falaises, on pense plutôt que ce sont des empilements, peut-être même des empilements primordiaux. Ces choses qui ressemblent à des dunes, eh bien, c'est essentiellement du régolithe qui a pu onduler pour des raisons diverses et variées.
C'est quoi du régolithe ?
Le régolithe, c'est en fait ce qui se produit sur un petit corps sans atmosphère, qui reçoit très souvent des micro-impacts, et sous ces micro-impacts, la matière de ce petit corps est brisé en morceaux de plus en plus petits.
Si je dis que c'est de la poussière, ça vous va ?
C'est de la poussière,
ah
oui,
bah voilà,
absolument.
On va appeler ça de la poussière, alors. C'est très
et
bien.
Cette poussière peut être extrêmement fine.
Ouais. Donc la comète est recouverte de cette fine poussière.
Et non seulement elle est recouverte de cette fine poussière, mais cette comète, il faut l'avoir présent à l'esprit, elle a une gravité extrêmement faible. Donc la physique qui se passe sur cette comète n'a rien à voir avec la physique que nous connaissons sur la Terre ou qui est connue aussi, je vais dire, sur la planète Mars ou sur la Lune.
Et puis il y a aussi cette forme. La comète a une forme à laquelle on ne s'attendait pas. C'est-à-dire, alors certains ont parlé de cacahuètes, d'autres de canards en plastique. Hervé Cottin, pourquoi cette forme? On s'attendait à quelque chose de plus rond, peut-être? À quoi on s'attendait d'ailleurs?
On s'attendait, c'était pas vraiment défini. C'est vrai que quand on regarde rétrospectivement, on se rend compte que finalement, la plupart des comètes dont on a pu s'approcher suffisamment près pour avoir des images du noyau, la plupart, pas toutes, présentent cette forme avec deux lobes. Et l'une des questions qui s'est posée tout de suite, c'est est-ce que en fait on a gagné le gros lot, c'est-à-dire qu'on a deux comètes pour le prix d'une, parce que ça peut être extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a deux objets différents qui s'agrègent, et puis par chance on arrive et on a des propriétés très différentes. Ce qui semble sortir des premières interprétations, c'est qu'effectivement ce noyau, il est fait de par les propriétés géologiques, les réseaux de failles, l'orientation des falaises, des strates, on a l'impression que c'est effectivement deux objets qui se sont agrégés au moment de la formation ou un peu après. En termes de composition, par contre, on n'a pas réussi a montré une évidence que ces deux objets soient vraiment de composition différente. Donc,
ce seraient deux objets semblables qui se sont agrégés.
C'est l'une des hypothèses qui a pour l'instant le vent en poupe. On peut pas garantir que dans quelques années, avec une relecture, des arguments percutants, on reviendra. Mais c'est pour l'instant, c'est plutôt l'interprétation qui fait consensus.
Et l'histoire, évidemment, ne s'arrête pas là. Ensuite, une fois que Rosetta est arrivée, il y a eu l'entrée en jeu de Philae, le petit robot qui devait atterrir sur la comète. Dans un instant, nous allons revenir sur ce qui lui est arrivé exactement à ce petit robot. Nous sommes en direct et pour nous adresser un message ou une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. C'était The Way You Used to Go, Queens of the Stone Age, sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Après l'exploit technique hier, on prend ce matin des nouvelles de Philae.
Oui, vous l'avez suivi peut-être en direct hein, hier sur Inter. Philae, ce petit robot qui s'est donc posé sur la comète Chury à plus de 500 millions de kilomètres de la Terre, atchourissage réalisé les minutes prévues, mais passé l'euphorie, eh bien les responsables de la mission Rosetta se sont fait peur, car les harpons du robot n'ont apparemment pas fonctionné, ce qui veut dire que Philae n'est pas solidement ancré dans le sol de la comète. Doute du coup sur la suite des opérations.
On était le 13 novembre 2014 dans la matinale de France Inter et on s'inquiétait pour ce petit robot Philae au lendemain de son atterrissage sur la comète Churyumov-Gerasimenko. Hervé Cottin, c'est vrai que ça nous a tenu en haleine, ça a été fait de rebondissements et pas seulement l'atterrissage. Ensuite, il y avait Philae répond plus, on ne sait pas où il est, on l'a retrouvé. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant qu'on a un peu reconstitué toute l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé pour ce petit robot?
C'est vrai, vous avez raison, si on avait eu à scénariser l'aventure de Philae pour en faire un polar, oui, pour tenir tout le monde en haleine, on n'aurait sans doute pas inventé mieux. Donc effectivement, si Philae, il y a ce contraste le jour de l'atterrissage où on s'est rendu compte que le monde entier en fait suivait. J'ai entendu dire qu'il y avait des Américains qui appelaient la NASA pour féliciter la NASA.
Ah oui, alors
et
ça,
la
c'était...
NASA a dû publier, faire un communiqué disant non, c'est pas nous, ce sont les Européens qui réalisent cette première. Et effectivement, Philae en fait a rebondi. Donc, ce qui fait que au moment où il y a eu cet atterrissage, tout le monde a sauté de joie parce que tout se passait comme prévu. Il y avait un contact au sol. Mais très rapidement, les gens qui étaient derrière, qui regardaient les données, se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas bien. Les premières images étaient floues. La luminosité qui était sur les panneaux solaires était variable. Et donc, il a fallu beaucoup d'heures de neurones pour comprendre que, en fait, Philae était en vol et qu'il a rebondi plusieurs fois avant de se nicher dans un endroit complètement inattendu de la comète. À la limite, on aurait pu choisir exactement où on aurait aimé se poser. On serait peut-être allé à cet endroit-là exactement, mais pour des raisons technique, de faisabilité et même de durée de vie de Philae, on avait choisi de se poser à un endroit où il pouvait, où on était à peu près sûr, enfin on était confiant dans la faisabilité de se poser et où on savait que Philae allait pouvoir fonctionner pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mmh. Et en fait, il s'est retrouvé dans un endroit beaucoup trop à l'ombre et comme il fonctionnait avec d'abord des piles sur deux ou trois jours, ces piles ont fonctionné et il a pu fonctionner pendant ces deux ou trois jours. Et ensuite, il y avait des batteries qui devaient se recharger à l'énergie solaire. Ça n'a pas fonctionné puisque il n'avait pas assez de temps au soleil pour se recharger.
Ouais. Annie-Chantal Levasseur-Regour, ça c'est un regret d'avoir vu ce petit robot qui finalement est quand même arrivé à son but, mais a très rapidement cessé de communiquer.
Honnêtement, non, pas un regret. Je me souviens encore dans la nuit de la descente, parce qu'il faut pas oublier qu'en chute libre, aller de Rosetta, qui était une vingtaine de kilomètres d'altitude, jusqu'au sol de la comète, en chute libre, ouais. Ça prenait 7 heures. Ouais. 7 heures de terreur.
Ouais, ouais, c'est ça.
Et donc, c'était vraiment un pari extraordinaire, Philae. Il est déjà arrivé sur la comète. Mmh. Et par ailleurs, les équipes qu'il avait construites, essentiellement au niveau du CNES en France et du DLR en Allemagne, eh bien, avaient été prudentes. C'est-à-dire que, comme il était dit à l'instant, il y avait des piles qui assuraient un fonctionnement pendant 3 jours. Et il y avait ensuite des batteries pour un plus, si c'était possible. Mmh. On a parfois appelé Philae la cerise sur le gâteau, mais c'est le glaçage sur la cerise, si je puis dire, à ce niveau-là.
La cerise sur la comète. Il nous a appris des choses, ce petit robot, pendant ces trois jours.
Énormément, pendant ces 3 jours. Alors, d'une part, on a eu des gros plans du noyau, évidemment.
C'est quoi le noyau d'une comète?
Alors, le noyau d'une comète, je pourrais, en continuant à utiliser des images poétiques, dire que c'est le cœur de la comète. Le noyau d'une comète, c'est la partie solide d'une comète. C'est tout petit, ça fait quelques kilomètres de taille, et c'est tout sombre. Mmh. C'est-à-dire que quand la comète est très très loin du Soleil, ou de nous, on ne le voit pas. Et quand la comète se rapproche du Soleil, eh bien comme ce petit noyau, évidemment j'ai caché ce qui était intéressant, et je n'ai pas dit que c'était constitué de glace et puis aussi de poussière, dirons-nous, les glaces commencent à s'échauffer en se rapprochant du Soleil, elles se transforment en gaz et elles entraînent avec elles des poussières. Et donc ce petit noyau s'entoure de ce qu'on appelle une chevelure ou une coma qui devient très lumineuse. Et on ne le voit pas. Ouais. C'est pour ça qu'il faut aller sur place pour le voir.
C'est ce qui a permis de voir donc Philae, ce noyau, en se posant sur la comète.
On le voit quand on est déjà à une centaine de kilomètres. Mmh. Les premières images du canard, comme vous disiez, c'était à quelques 200 kilomètres de distance. Mais donc quand on arrive sur place, on le voit encore mieux. Et puis plus encore, quand on est sur place, on peut faire des mesures. Pas de champ magnétique. On peut aussi, même si il n'a pas été possible d'avoir un long fonctionnement, on peut humer en quelque sorte ce qui sort de la comète et en déduire la composition, parce que dans la matière, dans les poussières des comètes, il y a non seulement des minéraux que je qualifierais de classiques, mais il y a aussi des molécules carbonées complexes, c'est-à-dire ce qui nous passionne le plus dans l'étude des comètes et de nos origines.
Alors ça vous a passionné, vous, scientifique, ça a aussi inspiré des artistes, notamment le compositeur Vangelis, dont on va écouter un extrait de la pièce Philae's Journey, le voyage de Philae.
Thank you.
Évidemment, la mission Rosetta n'avait pas pour seul but d'inspirer les artistes, hein, Hervé Cottin. Elle était censée apporter des réponses aux chercheurs. Les principaux objectifs de cette mission, c'était quoi ?
Ben, c'était de mieux comprendre et caractériser la composition des comètes. Parce qu'en fait, les comètes, moi je dis souvent, elles sont au carrefour des origines. C'est-à-dire bien connaître la composition du noyau d'une comète, ça nous permet d'accéder aux ingrédients de base qui ont permis la formation des planètes du système solaire. Donc on est vraiment là, on est sur un objet qui a 4,5 milliards d'années, tout comme les planètes du système solaire, tout comme le Soleil. Et c'est de la matière primitive qui a été un peu mise au congélateur, confinée loin du Soleil. Donc on pense qu'il n'y a pas plus proche de la matière primordiale qui a servi à former le système solaire que ce qu'il y a dans les comètes.
On a les briques de départ quand on s'intéresse aux comètes.
C'est ça, et voire même, alors, et ça c'est un débat qui devient technique, est-ce que on remonte à au moins 4,5 milliards d'années, mais peut-être on remonte même à avant, c'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas de la matière qui a 5 milliards, 6 milliards, 7 milliards d'années. Donc c'est vraiment une fenêtre sur le passé, sur l'origine du système solaire. Et l'autre, quand je dis le carrefour des origines, c'est que dans ces comètes, il y a aussi des ingrédients dont on pense qu'ils ont pu jouer un rôle dans l'apparition de la vie sur la Terre. Donc cette fois-ci, c'est l'origine du vivant, notre origine à nous, et s'articule sur deux choses. D'une part, l'eau. Hein, certains pensent qu'à l'endroit où s'est formée la Terre, il y avait très peu d'eau de disponible. Et donc, avoir de l'eau sur Terre, nos océans, nos rivières, c'est forcément quelque chose qui a été apporté après. Et donc, on se chamaille, entre chercheurs, à se dire, c'était là dès le début, ça a été apporté par certaines classes de météorites, ou ça a été apporté par les comètes. Voilà. Et c'était une des questions principales.
Alors, sur cette question précise, on va les reprendre maintenant dans l'ordre, ces questions, et voir les réponses qu'a apportées, ou les éléments de réponse apportés par la sonde Rosetta, précisément sur cette idée que l'eau de notre planète proviendrait de comètes qui auraient bombardé la Terre et qui auraient ensemencé, en tout cas apporté l'eau des océans. Qu'est-ce que donne les analyses?
Ça fait rêver de se dire qu'on va se baigner dans l'eau de comète, mais c'est plus compliqué qu'on l'imagine. En fait, on peut se dire, l'eau, c'est de l'eau. En fait, l'eau, la molécule, je parle en tant que chimiste, c'est H2O, donc ça, tout le monde sait. Mais dans certaines molécules d'eau, il y a un H, un hydrogène, qui est remplacé par quelque chose qui ressemble beaucoup, mais qui n'est pas tout à fait de l'hydrogène, qui est un isotope D, le deutérium. Et en fait, sur Terre, il y a une certaine quantité de D dans les molécules de H2O, et on s'attend à trouver dans les comètes une quantité comparable de D dans l'eau. Et avant Rosetta, on s'était rendu compte qu'il y avait certaines comètes où il y avait deux fois plus de D qu'il n'y a sur Terre, et on commençait à détecter certaines comètes qui avaient la même quantité de D que dans l'eau sur Terre. Et on se disait, bon, il y a certaines comètes qui, c'est pas comme la Terre, mais font partie d'une même famille de comètes. Les autres comètes, elles ont le même D que sur la Terre. Et la comète Churyumov-Gerasimenko appartient à cette famille. Donc s'attendait, tout le monde se disait, on va trouver une abondance de deutérium comme sur Terre.
Donc on avait le moyen de comparer la composition de l'eau sur la comète et celle des océans et de voir si ça correspondait.
Oui. Et alors, est-ce que la grosse surprise, et moi quand j'ai entendu, je suis presque tombé de ma chaise, mais c'est en fait, il n'y a pas plus différent dans une comète que l'eau de Churyumov-Gerasimenko.
Donc il faut revoir toute la théorie. Notre eau ne vient pas des comètes du type de Rosetta.
C'est ça, ça ne veut pas dire que l'eau ne vient pas des comètes, parce que certaines comètes ont une eau très voisine que l'eau qu'il y a sur Terre, mais ça veut dire on s'était dit, il y a deux familles. Bon, en fait, non. Il y en a sans doute plus. Il y a eu beaucoup plus de mélanges qu'on l'imaginait. Alors, on peut être déçu, mais les chercheurs, en général, on est contents parce qu'on se dit, encore à se creuser les neurones. C'est plus compliqué qu'on ne le pensait. Fait du boulot, tant mieux.
C'est ça, on va pouvoir y retourner. On va pouvoir envoyer
d'autres
sondes. Annie Chantal Levasseur-Regour, qu'est-ce que ça nous a appris aussi? Hervé Cottin nous a dit, ce sont les briques initiales du système solaire. Qu'est-ce que ça nous a appris sur la formation du système solaire?
Je crois beaucoup de choses, effectivement. Ce sont les briques. Et quand on veut voir comment se fabrique quelque chose avec des briques, il est intéressant de connaître la composition des briques, mais il est intéressant aussi de savoir ce qu'on utilise pour les faire tenir les unes avec les autres. Et en bref, il y a l'aspect chimique et il y a aussi l'aspect des processus physiques qui ont joué un rôle important à l'origine du système solaire. Ouais. Alors il faut toujours qu'on reste très modeste là-dessus. L'exemple que donnait Hervé à l'instant, c'est bien clair. Quand on se dit il y a juste deux familles ou quand il y a juste un processus, c'est d'une naïveté absolue. Mmh. Hein. Le système solaire, il a mis du temps quand même à se former, il est très vaste. Toujours est-il que ce dont on a pu constater, à la fois à partir de la structure interne du noyau de Churyumov-Gerasimenko, qu'on commence à bien un petit peu comprendre, dirons-nous, avec l'expérience française à bord. Et puis aussi à partir des observations avec un microscope à force atomique, des poussières, on se rend compte que toute cette matière est extrêmement poreuse et qu'elle est essentiellement constituée d'agrégats. Et donc, ce que l'on comprend, c'est que le mécanisme pour avoir formé, pour y tenir ces briques entre elles, ça a été simplement une agrégation par attraction mutuelle, que ça se passait aux confins du système solaire, et que tout ça, ça formait des objets extrêmement poreux, eux-mêmes constitués de petits grains de quelques dizaines de nanomètres.
Et puis, vous nous l'avez dit, Hervé Cottin, parmi les buts de la mission, il y avait aussi d'apporter des éléments de réponse à la question de l'apparition de la vie. Alors nous allons voir si la mission a permis d'avancer sur cette question. Dans un instant, vous écoutez France Inter, le temps d'un bivouac sur une comète.
Flèche en opale, dans mon ovale, tout métal au visage pâle, drôle de fleur, un indien dans mon cœur. Flèche en platine, dans ma poitrine, pointe sanguine, épaule féline, drôle de fleur, un indien dans mon corps. C'est lui, l'amour de ma vie. Je sais que c'est lui, tout me le dit. Le jour comme la nuit, je suis à lui. Flèche, une aurore dans mon décor, casque d'or au cuir sonore, drôle de bête, un indien dans ma fête. Flèche, pas farouche, roule bouche à bouche, du genre
C'était l'Indien, Juliette Armanet sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Notre univers est un grand illusionniste. Il semble immuable et figé dans le temps. Mais au contraire, il vit de constants bouleversements. Il déploie des forces titanesques qui façonnent à la fois l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et toutes ces extravagances cosmiques aboutissent à l'apparition de l'infiniment complexe, la vie.
Ce que nous raconte l'astronomie nous donne cette idée d'un univers gigantesque, un univers dont on ne peut pas mesurer la dimension, mais dont l'étude, grâce à la science contemporaine, peut nous apprendre des choses sur ces fameuses questions d'où venons-nous, ou plus exactement, comment tout cela a commencé, et cela nous permet de nous poser des questions sur comment cela va se poursuivre.
La voix de Hubert Reeves qui fêtait hier ses 85 ans, alors on lui souhaite avec un jour de retard un très joyeux anniversaire à Hubert Reeves. Annie Chantal, Levasseur Regour et Hervé Cottin sont les invités du temps d'un bivouac. Est-ce que Hervé Cottin, la mission Rosetta, c'était l'un de ses buts, mais est-ce qu'elle a réussi à nous apprendre des choses sur les origines de la vie?
Alors là, on savait qu'on allait apprendre des choses grâce à Rosetta parce que pour comprendre comment la vie apparaît sur la Terre, on a besoin de savoir en premier lieu les ingrédients qui étaient disponibles. Alors on pensait pas avoir la recette avec Rosetta, mais par contre élargir notre idée des ingrédients, c'est-à-dire que on sait qu'il y a pu avoir des choses qui sont passées sur Terre, des molécules qui sont formées sur Terre, mais par contre pour des raisons un petit peu techniques, on se dit que c'est plus facile d'avoir une chimie qui commence à avoir lieu dans l'espace, qui se retrouve réfrigéré et stocké à l'intérieur des comètes. Et ça, on le sait depuis Giotto, hein, le milieu des années 80. On sait que les comètes sont riches en molécules à base de carbone, qu'on appelle les molécules organiques. Et on sait que si les comètes tombent sur Terre, comme ça s'est très probablement passé dans la jeunesse de notre planète, elles ont pu apporter ces molécules qui sont assez difficiles à former sur Terre. Mais le bonus, l'avantage de la Terre, c'est qu'on a l'eau à l'état liquide. Il y a de l'eau dans les comètes, mais c'est de la glace. Mmh. Le fait d'avoir de l'eau à l'état liquide, ça permet des interactions entre molécules qui sont fondamentales, on pense, pour que la vie puisse apparaître.
Quel genre de molécules on a cherché sur cette comète en se disant, s'il y en a, ça peut être déjà des briques élémentaires de la vie?
Alors, il y a des molécules qui sont des molécules un petit peu symboliques, iconiques, quand on réfléchit aux origines de la vie. Ces molécules, on les appelle les acides aminés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un acide aminé? C'est en fait une perle, une brique élémentaire qui va servir à constituer ce qu'on appelle les protéines. Donc, tout
la
être vivant...
La protéine, c'est le collier, et l'acide aminé, c'est la perle.
C'est ça, exactement. Donc, tous les êtres vivants, humains, bactéries, hein, parce que quand on parle du vivant, une bactérie, c'est tout aussi vivant que nous, et tout aussi compliqué, c'est formé de protéines et aussi de molécules qu'on appelle l'ADN et l'ARN. Mais pour rester sur les protéines, donc on se dit, tiens, pour former les protéines, on a besoin des acides aminés. Et on s'est rendu compte que dans la comète Tsuri, il existe un acide aminé, en tout cas on en a détecté un avec certitude, qui est le plus simple, qui s'appelle la glycine. Et donc ça a été une belle réalisation, on s'y attendait, hein, c'est pas, on n'a pas été
on là, a vous pas, été pas surpris. Tombé de votre chaise.
Non,
là,
non, je suis pas tombé de ma chaise, on s'y attendait, on le recherchait. Il y avait des indices grâce à des missions précédentes qui nous permettaient de dire que c'était sans doute probable, mais là c'était vraiment une détection qui était claire, nette. On a cet ingrédient qui apporté sur Terre peut contribuer. On n'a pas répondu à la question. Ouais. Voilà. Il nous manque la recette, comme je le dis, mais on élargit la liste des ingrédients.
Bon, ça veut dire, Annie Chantal Levasseur-Regour, qu'on peut imaginer qu'une partie de l'origine de la vie s'explique avec les comètes?
Est possible. Hein. Autant la mission Rosetta nous a apporté des preuves des vérités terrain, sur la glycine par exemple, autant il y a des choses qui sont encore à l'état spéculatif. Alors pour en revenir à ce qui se passait il y a peut-être 4 milliards d'années, eh bien, il est à peu près certain qu'il y a eu beaucoup de noyaux cométaires qui sont précipités vers le Soleil. Ceux qui se crachaient directement sur la Terre, je pense pas que ça pouvait permettre à ces petites molécules fragiles, organiques, de subsister. En revanche, il y avait des poussières qui étaient éjectées des noyaux cométaires. Il y avait un milieu interplanétaire très riche en poussière. Et ces poussières tombaient lentement dans l'atmosphère de la Terre. Ça arrive encore aujourd'hui, mais avec un flux infiniment plus faible. Et ces poussières, parce qu'elles étaient riches en molécules carbonées complexes, parce qu'elles étaient constituées d'agrégats qui donc pouvait avoir de bons échanges thermiques avec la jeune atmosphère de la Terre. C'était du dioxyde de carbone au lieu d'azote et d'oxygène, mais ça changeait rien pour les échanges thermiques. Elle pouvait arriver sur la Terre, elle pouvait tomber dans des petites mares, si je puis dire, d'eau. Sur lesquels il y avait d'ailleurs des effets de marée énormes parce que la jeune Lune était beaucoup plus proche de la Terre. Et donc, il y avait un brassage d'une partie de ces molécules carbonées complexes qui, effectivement, pouvaient venir des comètes.
Allez, il est temps à 16h44 de retrouver Jérémy Querenet pour sa chronique en partenariat avec le CNES, l'Agence Spatiale Française. Une fois de plus, il nous emmène au cinéma voir comment les scénaristes se sont emparés de notre sujet du jour.
Non, ça va pas du tout,
coupez! Arrête ton cinéma.
Il nous reste 18 jours avant qu'il entre en collision avec la Terre.
Les petits corps du système solaire sont loin d'être des stars de cinéma. Ils sont beaucoup moins visibles que la Lune, que Mars ou que les autres planètes. C'est bien simple, dans la science-fiction, on se pose rarement sur une comète ou un astéroïde. On n'y installe pas de colonies humaines, on y croise peu d'extraterrestres. En fait, quand on nous parle d'astéroïdes, c'est surtout pour nous faire peur. Cette peur de la collision, cette peur de revivre ce que les dinosaures ont enduré.
Cela s'est déjà produit. Cela se reproduira. Reste à savoir quand.
De la fin du monde, d'Abel Gance en 1931 jusqu'à Deep Impact en passant par Météor, on ne compte plus les films qui mettent en scène l'approche d'un astéroïde qui arrive en pleine vitesse dans notre direction. Et à chaque fois, c'est branle-bas de combat sur Terre et la même question qui se pose, comment éviter la collision, comment exploser l'objet en plein vol ou au moins comment arriver à le faire dévier de sa course.
Pour les risques spatiaux, notre budget est $1 million. Grâce à cela, on surveille à peine 3% du ciel. Excusez-moi, monsieur le président, mais le ciel est vaste.
Cette histoire, c'est aussi le point de départ d'Armageddon, film de Michael Bay sorti en 1998. Le petit plus du film, son argument de vente, c'est que, pour une fois, au lieu de tenter l'envoi massif de missiles, la NASA va essayer de se poser sur l'astéroïde. Objectif, y faire un trou pour placer une bombe dans les entrailles du caillou.
C'est tout ce que le gouvernement des États-Unis a pondu. Vous avez pas mieux. Mais enfin, vous êtes la NASA, bordel, c'est dingue, ça vous avait envoyé un type sur la Lune. Vous êtes des pointures.
Apparemment inspiré de l'imagerie de l'enfer autant que de l'univers de Superman et de sa planète Krypton, l'astéroïde qu'on voit dans Armageddon est recouvert de grands cristaux. On y trouve des profonds canyons, des pics acérés. Le tout est sombre, très sombre. L'environnement semble en plus particulièrement instable.
Des crêtes rocheuses affûtées comme des lames de rasoir, des variations de la gravitation très aléatoires et peut-être des éruptions inattendues.
Bien sûr, dans les films catastrophes, nous sommes habitués à voir l'Amérique se présenter comme le seul recours. C'est attribuer la place de sauveur de l'humanité. Et bien sûr, nous avons vu partout et tout le temps des drapeaux américains flotter au cinéma dès que la Terre est menacée par une invasion extraterrestre, un virus, une horde de zombies ou une météorite. Tout ça se retrouve aussi et sans finesse dans Armageddon. Mais plus surprenant, le film propulse la NASA en véritable héros. L'agence spatiale américaine est citée dans le film aussi souvent que la bannière étoilée est visible.
Ça fait 30 ans que certains demandent à quoi sert la NASA. Aujourd'hui, on va leur répondre.
Au moins dans les films similaires, on fait la plupart du temps semblant d'accepter l'aide des autres agences spatiales. Dans Météor, avec Sean Connery, c'est même le sujet du film. Face à cette menace inédite, Russes et Américains sont obligés de collaborer en pleine guerre froide pour réussir à faire dévier l'astéroïde. A l'inverse, et de façon étonnamment insolente et décomplexée, dans Armageddon, l'Amérique n'a besoin de personne. Et on se moque même très ouvertement des équipements des Russes. La seule présence non américaine avérée dans l'espace est effectivement un cosmonaute russe à l'abandon dans sa station Mir complètement délabrée, station qui ne sert que de station-service pour les rutilantes navettes américaines.
Pendant les 10 jours qui viennent, l'astéroïde ne sera visible que par 9 télescopes. Nous en contrôlons 8.
Plaidoyer pour un financement plus conséquent, justification de son indispensable utilité, preuve de la bravoure et de l'intégrité de son personnel, on peut presque considérer que la présence de la NASA dans le film Armageddon relève du placement de produit. Ce qu'on nous montre finalement dans le film, c'est que seule l'Amérique semble être capable de réussir cet exploit, se poser sur un astéroïde ou une comète. Alors l'histoire, la vraie, ne donne évidemment pas raison à ce scénario hollywoodien.
Toutes les pensées de la planète sont entièrement tournées vers la mission de la NASA, qui est actuellement en cours dans l'immensité de l'espace.
Merci Jérémy Querenet et à la semaine prochaine. La chronique de Jérémy est à retrouver sur le site du CNES, CNES.fr, le CNES, l'agence spatiale française, qui a joué un rôle important dans cette aventure Rosetta. Rosetta, il faut le dire, on l'a déjà dit, mais répétons-le, c'est une mission européenne avec une implication importante de la France. Et Bruce Willis n'y est pour rien, Hervé Cottin. La NASA non plus d'ailleurs.
Alors, la NASA est impliquée d'une certaine manière pour le relais d'information, les antennes, et ils ont fourni un instrument. Donc, on travaille toujours de manière internationale, c'est-à-dire que il y a des instruments qui ont un leadership d'un pays. Moi, par exemple, l'instrument sur lequel j'ai travaillé est un instrument avec un leadership allemand, mais il y a beaucoup de Français, d'Italiens, des Finlandais, des Suédois. Enfin, on est en mode international. On regarde pas la couleur du drapeau quand on fait de la science.
Annie-Chantal Levasseur-Regour, c'est vraiment une réussite européenne, hein, cette mission Rosetta.
C'est vraiment une réussite des pays européens qui font partie de l'Agence spatiale européenne. Je précise ça parce que, assez curieusement, dans l'Agence spatiale européenne, il y a la Suisse.
Oui, d'accord.
Bon,
oui.
Qui fait pas mal. Mais c'est vraiment une belle réussite internationale et je dois dire que c'est beaucoup plus... au niveau, je dirais presque politique, au niveau de la communication, délicat de travailler au niveau Agence spatiale européenne que de travailler au niveau NASA. Là, on est ravis parce que dans toute la communication que l'ESA a faite sur Rosetta et sur Philae, il y a eu en particulier des petites, comment appeler ça, des petits cartoons, des petites bandes dessinées qui sont traduites dans 5 ou 6 langues européennes.
Et oui.
Mais il est évident qu'à partir du moment où on doit traduire dans 5 ou 6 langues avec les bons mots, tout ça coûte beaucoup plus cher.
Ouais.
Et les laboratoires peuvent avoir des façons de travailler différentes, mais ça c'est une chance inouïe, parce que de cette diversité naît la richesse.
Allez, dans un instant, nos invités vont répondre aux questions que vous leur avez adressées sur la page de l'émission franceinter.fr et sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freakiest show. Take a look at the is their life on Mars. It's on America's tortured brow Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the now. C'était Life on Mars, David Bowie, et la programmation musicale du temps d'un bivouac sur France Inter est signée comme toujours Djoubaka.
Les hommes, des siècles plus tôt, alors qu'ils n'avaient pas les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui, ont été capables de calculer les orbites de planètes, de lunes, de comètes, extrêmement précisément. Ce qu'ils ont fait est remarquable, et j'aimerais que ce que nous réalisons aujourd'hui puisse être perçu par ces personnes comme un accomplissement de tout le travail qu'ils ont mené des siècles plus tôt.
Andrea Accomozzo, qui est directeur de vol de Rosetta à l'ESA, l'agence spatiale européenne. Annie-Chantal Levasseur-Regour, vous avez le sentiment d'écrire, vous aussi, une nouvelle page de l'histoire des sciences. Vous vous inscrivez vraiment dans une lignée de scientifiques qui se sont interrogés sur ces comètes.
Tout à fait. C'est pas écrire une nouvelle page, c'est continuer cette avancée qui remonte peut-être aux anciens qui étaient émerveillés par les comètes en se demandant si c'était des signes de catastrophe ou à l'inverse, ouais. Le cas de la tapisserie de Bayeux et de la bataille de Hastings, et puis Allais, Le Pote, que sais-je, qui au XVIIIe siècle ont commencé à comprendre vraiment le mouvement, les retours périodiques des comètes, de ceux qui au XIXe siècle, des Arago, autres, ont commencé à faire de l'astrophysique sur les comètes, de tous ces gens qui, curieusement, vers 1950, ont eu toute une collection de bonnes intuitions sur ce que pouvaient être les comètes, sur les réservoirs de comètes, sur l'aspect noyau. Et puis maintenant, l'exploration spatiale.
Allez, quelques questions d'auditeurs qui sont arrivées pour vous sur la page de l'émission. À chaque passage d'une comète, celle-ci perd-elle de l'épaisseur quand elle rentre dans le système solaire ? Hervé Cottin.
Alors oui, effectivement. Donc, c'est pas aussi trivial qu'on peut penser, mais effectivement, il y a de la glace qui est gelée à l'intérieur du noyau, qui expulse de la poussière, et on estime qu'il y a quelques mètres, quelques dizaines de mètres qui sont perdus à chaque passage. Alors, ça ne veut pas dire que la comète va fondre complètement, parce qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus de glace, et donc il n'y aura plus de glace pour entraîner de la poussière, et donc on pense qu'il y a certaines comètes qui vont être des objets éteints, qui de loin vont ressembler en fait à ce qu'on va appeler des astéroïdes, mais qui sont en fait des comètes qui n'ont plus d'activité. D'accord. Donc, ce qui fait que les cases qu'on utilisait avant, c'est-à-dire dans une boîte on met les astéroïdes, dans une autre boîte on met les comètes, en fait ce sont des cases qui sont un petit peu poreuses, qui sont utiles, mais c'est pas aussi simple que ça.
Une autre question pour vous, Annie-Chantal Levasseur-Regour, pourquoi avoir choisi cette comète-là, finalement? Il y en a tellement des comètes, comment vous l'avez choisie, cette comète baptisée Churyumov-Gerasimenko?
Alors en fait, et en pratique, on devait choisir une comète pour laquelle la montée, si je puis dire, loin du Soleil, qui est le centre d'attraction, ne prenait pas trop de temps, et était techniquement faisable. Et donc la bonne solution, c'était une de ces comètes qu'on appelle de façon assez artificielle de la famille de Jupiter, qui ont le bon goût d'avoir leur plan orbital proche du plan orbital de la Terre. Sortir de ce plan, ça demande de l'énergie. Et puis aussi, dont l'aphélie, c'est-à-dire le point le plus éloigné du Soleil, n'est quand même pas trop trop lointain. Donc se trouve typiquement à 5 unités astronomiques. Et il se trouve statistiquement qu'il y en a à peu près une par an. Et ça, on a bien fait d'avoir ce choix-là, puisqu'il se trouve qu'on devait lancer en 2003. Il y avait eu un problème au mois de décembre de l'année d'avant avec une fusée Ariane, donc précaution, on a attendu un certain temps d'être sûr que les fusées Ariane génériques allaient très très bien, et on a lancé sur la suivante, qui a un nom assez difficilement prononçable.
Oui. 10 secondes à Hervé Cottin, mais il y en a pour combien d'années de travail encore à étudier toutes ces données recueillies par Rosetta?
Je pense qu'il y aura pour des dizaines d'années de travail. Là, pendant 2 ans, on était le nez sur le guidon à utiliser les instruments, envoyer des commandes, interpréter les données. Là, maintenant, on n'a plus qu'à traiter les données et à les exploiter.
Merci à tous les deux, Annie-Chantal Levasseur-Regour et Hervé Cottin, de nous avoir emmenés sur cette comète. Dans un instant, nous partons en Chine avec le Québécois Alexandre Trudeau.